Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Première, je voudrais dire pardon à les supporters.
Je demande pardon à nos supporters pour ces résultats.
Je dis pardon à tous les supporters.
Je dois juste dire à nos supporters excuse.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
Eh oui, il n'y a pas de pub. Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans l'After sur RMC, en direct 7 jours sur 7 jusqu'à minuit. Et 24 heures sur 24, en podcast. L'équipe ce soir, Kevin Diaz, salut Kevin.
Salut à tous.
Et Walid Acherchour, salut Walid.
Salut à tous.
Ça va les gars, en forme? Kevin, ah, petite semaine à Clairefontaine, bien?
Grosse semaine à Clairefontaine.
Ouais. On continue de bosser ses diplômes?
Écoute, salut tous les éducateurs et les formateurs. Ils écoutent pour la plupart l'After.
Walid, je suis un peu inquiet, voir. Non, t'es pas blessé?
Non, non, ça va, pourquoi?
Bah, j'ai vu une vidéo de toi au paddle.
Ah, la chute d'hier au paddle.
Où tu t'es, comment dire, mangé un filet. Mais...
J'ai eu très très peur, oui, c'est vrai.
Mais
que
ça va?
C'est amorti, j'y ai cru, mais malheureusement, j'avais pas assez.
Elle est incroyable, cette chute.
Ouais, ouais. J'avais pas assez de réactivité.
Oui, oui. De bien belles images, comme on dit donc.
Un flic de Walid.
Mais bon, ça ne. C'est pas le plus beau. On va dire
geste de ta soirée, de ta journée ou
pas. Oui, exactement. Ouais. Mmh. Voilà, ça résume pas totalement.
Tu l'as mis sur ta page Instagram, celle-là ou pas?
Non. Ça résume pas le joueur de paddle que je suis.
Pour la voir, il faut aller sur les comptes, sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, RMC Sports. Ouais. Oussem Le Saïf qui était sur place, qui a su tirer le meilleur de cette journée de paddle finalement, avec la Dream Team RMC. Allez les gars, au programme ce soir, le foot. Un mot de Ligue 2, enfin de Ligue 2, de futur Ligue 1, on peut dire. Que Walid veut parler du Havre. Si vous aussi, comme je disais, vous avez envie, ami Havre, ce soir de parler de votre club dans l'After, n'hésitez pas. 32-16. Dans 10 minutes, le PSG au cœur de l'avis tranché de Walid. Walid, tu proposes une réponse tactique aux nombreuses absences, c'est ça?
Oui. Je veux revoir le 3-5-2 et je veux voir Lionel Messi en faux numéro 9.
Bam! La phrase est lancée. 32-16 supporters parisiens pour venir réagir. À 11 jours de PSG Bayern, on passe un coup de fil à Paulo Breitner. Nagelsmann, étonnant aujourd'hui en conférence de presse, il ne croit pas au forfait de Mbappé. Il dit que lui, il jouera contre lui. On écoutera Nagelsmann.
Mais est-ce qu'on doit croire à l'absence de Sadio Mané?
Bah exactement, parce qu'il nous a annoncé le forfait de Mané aussi. Donc voilà, on verra ça. On sera avec Paulo tout à l'heure. 23h30, l'avis tranché de Kevin. Sur l'OM, Kevin.
Eh oui. C'est maintenant ou jamais?
Maintenant ou jamais?
J'ai rien à ajouter.
Très bien. Tu développeras un peu plus d'ici une demi-heure environ.
Peut-être.
Ça m'arrangerait. Et puis l'OL, dans le dernier quart d'heure, grosse journée médiatique à Lyon. Laurent Blanc a quitté la conférence de presse en plein milieu. Jean-Michel Aulas a comparé l'OL à Liverpool pour justifier le passage à vide. Aulas, se voile-t-il la face? On vous attend au 32-16. Adriella au standard, sur tous ces sujets, vous n'hésitez pas. Le 32-16, vous nous appelez, vous venez débattre avec l'After, vous commentez votre soirée foot, bien sûr, sur les réseaux sociaux, Twitter, le hashtag RMC Live, sur les applis RMC, RMC Sport, ça c'est le direct studio. Vous envoyez directement vos messages et je vous lis. Et puis, bien sûr, on est en direct vidéo, les gars, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, 20h minuit. L'After en direct sur Twitch, le chat RMC Sport. Salut à l'ému qui est là-haut, salut au chat.
C'est comment la Twitcherie?
À commenter l'émission. C'est comment la Twitcherie? Vous répondez et on lit vos commentaires tout de suite. Et juste avant le foot et la Ligue 2, future Ligue 1 peut-être, le basket, notre direct du soir, c'est de l'Euroleague l'Asvel face à Bologne. Salut Jérémy Donzé.
Salut Thibaut, bonsoir Walid, bonsoir Kevin, bonsoir à toutes et à tous. L'Asvel qui est mené sur son parquet face à Bologne. Les trois dernières minutes de cette rencontre, l'Asvel mené de 11 points, 69-58 pour les Italiens. Soirée compliquée pour l'Asvel, elle avait pourtant bien démarré avec le record historique de Nando De Colo, devenu ce soir le meilleur marqueur de l'histoire des Coupes d'Europe, en dépassant le grec Nikos Galis. Mais ça s'est compliqué derrière pour les hommes de TJ Parker, en panne de solution. Seulement 58 points marqués pour l'instant face à cette équipe italienne, l'Asvel qui se dirige vers une troisième défaite consécutive en seulement 6 jours. 69-58, 11 points d'avance pour Bologne. Il reste 2 minutes 30 dans cette partie.
Merci Jérémy, à tout à l'heure pour le résultat. À l'étranger, on joue ce soir. Augsbourg a battu le Bayer Leverkusen 1-0 en Bundesliga. On joue les dernières secondes d'Athletic Bilbao Cadix 4-1 pour Bilbao. Et puis en Angleterre, les dernières secondes de Chelsea Fulham 0-0 entre les Blues et Fulham avec une compo. On peut en dire un mot, les gars, si vous voulez. Enfin, je sais pas, moi, elle m'a étonné avec notamment Ziyech titulaire. Ouais. Ouais. C'est incroyable quand même.
C'est quand même vraiment étonnant de voir Hakim Ziyech, le grand Hakim. Hein, j'étais pas là cette semaine, mais qui a bien failli nous rejoindre à Paris. En tout cas, signé au Paris Saint-Germain. Ça aurait été quand même quelque chose de voir Hakim Ziyech au Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, c'est forcément surprenant de le voir du coup titulaire dans cette équipe alors qu'il était. Il est resté bloqué dans le fax, quoi.
Voilà, il était à un mail de. Ouais. Et on a eu Mudryk qui a démarré et qui est sorti à la mi-temps pour Madueke. Mmh. Voilà, une gestion. On va quand même attendre, hein, Chelsea, hein, pour commencer à.
Je crois qu'on va attendre très longtemps.
Ouais, ouais, on le souhaite pas aux supporters de Chelsea, mais pour l'instant, il y a très très peu de choses à tirer comme enseignement.
Dans une dizaine de minutes, le Paris Saint-Germain avec l'avis tactique de Walid. Là, ce sera en mode tableau et.
Pas forcément.
Écrit. Non, pas forcément.
Pas forcément. On va essayer de vulgariser notre pensée.
Merci, monsieur. 32-16 supporters parisiens, et notamment ce 3-5-2 que veut voir ou revoir Walid. Vous nous appelez et vous réagissez à son avis tranché. Mais d'abord, tu voulais parler Ligue 2. C'est la soirée que vous avez vécue sur RMC, le début de soirée. Et Le Havre, qui donc, après 22 journées, possède 8 points d'avance sur Sochaux et Bordeaux. Le Havre, je disais, futur Ligue 1... Je m'avance un peu.
Oui, c'est pas finalement la soirée rêvée pour Le Havre. On l'avait imaginé un petit peu avec Maxime et toi pour essayer d'en parler et de faire un petit point sur notre Ligue 2 BKT parce que en haut comme en bas, ça bataille très très dur. Et ce soir, Le Havre pourrait faire un super coup. C'est pour ça que je voulais en parler. Finalement, ça ne s'est pas matérialisé au classement et même dans le contenu, c'est pas le meilleur match du Havre cette saison, loin de là. Et de l'autre côté, on a eu Bordeaux et Sochaux qui ont été faire des résultats à Pau et notamment à Rodez. Donc ils grappillent quelques points sur le Havre, mais le Havre avant la rencontre avait 10 points d'avance avec ce choc remporté contre Bordeaux il y a 3 jours. Et pour donner un petit aperçu à ceux qui nous écoutent de cette lutte, il va avoir un Sochaux-Le Havre sur la prochaine journée notamment et donc ce soir on va pas dire que la course est relancée mais si Le Havre fait un mauvais résultat contre Sochaux ça peut se resserrer au classement. Mais quoi qu'il arrive, au-delà de ce résultat-là, il faut saluer un petit peu ce que fait Le Havre depuis le début de saison, parce que en termes de moyens, pour moi, cette équipe-là, en termes d'individualité, n'a pas la plus belle équipe de Ligue 1. Et ils ont ce mat-là d'avance qui va peut-être leur permettre d'aller en Ligue 1. Et voilà, je voulais saluer le travail de Mathieu Bodmer, de Julien Maumont, de Momo Elkaraz et de Lucas Elsner. Parce que même si il commence un petit peu à tirer la langue physiquement et dans le jeu, c'est un peu moins bien sur les dernières semaines parce qu'il y a beaucoup de blessures, parce qu'il y a beaucoup de fatigue, parce qu'il y a des joueurs qui viennent d'arriver notamment. Il faut en parler parce que c'est un travail à valoriser. Et je conseille à Kevin notamment et le très très bel interview de Julien Maumont aujourd'hui sur la data. Il est très intéressant.
Oui.
Toi qui es fan de data. Oui,
écoute, c'est vrai que d'ailleurs aujourd'hui à Clairefontaine, petite intervention d'un des analystes anglais de la Fédération française aussi très intéressant. Mais après de toute façon, c'est clair que concernant Le Havre ici à RMC, on ne s'en cache pas, on n'est pas vraiment objectif.
Oui.
Et que ce soit avec Julien Maumont, avec qui j'ai travaillé avec grand plaisir pendant plusieurs saisons sur la Première Ligue notamment, ou sur les Coupes d'Europe, ou avec Mathieu Bonnemer, forcément c'est un club qu'on suit particulièrement, c'est un club en plus le club doyen, je le dis souvent avec Nico Villa, ça n'a rien à voir, mais un des plus beaux maillots du football français, un club emblématique, un grand club formateur qui a vraiment une ADN de formation et une culture qui est vraiment très prononcée là-bas. Donc c'est forcément un club qu'on a envie de revoir en Ligue 1 avec ce stade Océane qui malheureusement est un très beau stade mais n'a jamais connu la Ligue 1.
J'ai une question pour vous juste après. On va libérer Jérémy Danzé parce que c'est terminé au basket. C'est l'Euroleague, l'ASVEL face à Bologne, Jérémy.
Ouais, les toutes dernières secondes dans cette partie, l'ASVEL qui va s'incliner. 75-62, 13 points d'avance pour Bologne. Bologne qui va se rapprocher. Une petite victoire du top 8. C'est bien loin cet objectif play-off pour l'ASVEL. À 4 victoires désormais des 8 premiers de cette Euroleague. La 15e défaite cette saison en Coupe d'Europe pour les hommes de TJ Parker. Une défaite donc face à Bologne avec ce record qui restera finalement anecdotique pour Nando De Colo. Record tout de même, le meilleur marqueur de l'histoire de toutes les Coupes d'Europe. 15 points d'avance désormais pour Bologne. Les dernières secondes ici à l'Astrobal. 3e défaite consécutive pour l'ASVEL qui va rester 16e de Euroleague.
Merci Jérémy.
Merci Jérémy. Pour finir sur la Ligue 2, quand même, quand tu regardes ce classement et que tu défiles vers le bas, tu te rends compte quand même que Dijon et Saint-Etienne, qui sont sûrement deux des plus gros budgets de cette Ligue 2, sont quand même tous les deux relégables.
C'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup de crédit sur ce que fait le HAF, parce qu'en termes de moyens, dans la construction notamment de l'effectif et même sur le dernier mercato, il a fallu
mercato, constitution, pour conclure, bon, ça sent bon la Ligue 1 quand même. Est-ce que c'est un club qui a les armes pour ne pas faire l'ascenseur comme beaucoup d'équipes si ça monte cette année?
Ça on en parlera déjà en fin de saison, parce que moi c'est pas terminé pour moi. Vraiment, Bordeaux est une équipe qui a de meilleures individualités. Sochaux est pour moi la plus belle équipe, l'une des plus belles équipes de cette Ligue 2, et ils vont s'arracher jusqu'au bout. On va voir ce que fait Amiens et Metz demain. Mais voilà, aujourd'hui, Le Havre n'a pas connu de temps faible en termes de résultats cette saison. Il va falloir être vigilant sur les prochaines semaines. Donc pour répondre à ta question, on va attendre. Ce serait déjà extraordinaire. Le Havre n'est plus remonté depuis les années 2008-2009 avec Guillaume Moirot. Donc si l'équipe en place que j'ai citée précédemment réussit à aller chercher cette Ligue 1 dès la première année, ce serait complètement fou. Et puis après, les considérations sur l'ascenseur, l'escalier ou autre chose, on en parlera, je pense, quand ça arrivera.
Pour terminer sur nos directs du soir, donc Chelsea et Fulham, ça s'est terminé 0-0 dans ce match avancé en Première Ligue. Match de la 21e journée, Chelsea 9e, 30 points. Ça fait 20 points de retard sur Arsenal qui a deux matchs en moins. Incroyable ce classement, donc c'est terminé. Puis en Espagne, l'Athletic Bilbao a battu Cadix 4-1. Dans un instant, le Paris Saint-Germain, l'avis tranché de Walid sur le système tactique du Paris Saint-Germain à mettre en place pour moi le mois de février. Supporters parisiens, je vous attends au 32-16. Et puis quelques messages à vous lire. Alors il y a Oduesp qui écrit Paddle ou Padel ?
Padel.
Padel.
Mais on a le mauvais réflexe de dire Paddle.
Ouais. Paddle, c'est le truc sur l'eau. Ouais,
exactement.
Tu
c'est Paddle.
Exactement.
Paddle.
Oh, voilà.
Et puis, merci, parce qu'il y a pas mal de messages sympas qui tombent sur le retour de la libre antenne. Alors, j'ai Rachid qui a compris la moitié du truc. Il dit quelle nouvelle, le retour du libre after. En fait, c'est l'after de la libre antenne. Mais merci, Rachid. Alexandre, pareil, le retour de la libre antenne est une grande nouvelle. Anthony, qui écrit top la libre antenne. Je n'ai jamais intervenu, mais le concept est top pour ceux qui ont moins de neurones footballistiques que les auditeurs de l'after.
On ne pouvait pas se passer du duo iconique, Kevin. Thibaut Nico Villas.
C'est clair.
Bah, on espère.
Exactement.
Vous allez passer faire un tour, un de ces quatre, les gars. 22h57, l'after en direct jusqu'à minuit ce soir avec Kevin Diaz, Walid Acherchon, la libre antenne. Ce sera mercredi, hein, après OM Paris Saint-Germain, minuit et demi, 1h30. Là, ce soir, on est là jusqu'à minuit et on parle du Paris Saint-Germain dans un instant.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Thibaut Giangrande.
L'after avec Kevin Diaz, avec Walid Acherchour. Merci d'être là ce soir à l'écoute sur RMC, aux commentaires. Vous êtes nombreux ce soir sur le direct studio, sur les applis RMC Sport. Vous êtes également nombreux sur Twitch, la chaîne RMC Sport, pour nous voir en vidéo et pour commenter, bien sûr, votre émission. Comme tous les soirs, vous le savez. Au programme, d'ici une petite demi-heure, l'Olympique de Marseille, avec l'avis tranché de Kevin Diaz. Pour l'OM, c'est maintenant ou jamais. On parlera également de Lyon dans l'heure qui vient. Le dernier quart d'heure, Jean-Michel Aulas se voile-t-il la face? Il est venu face à la presse aujourd'hui afficher une sorte d'optimisme. On l'écoutera et vous jugerez à millionner au 32-16. Mais d'abord, messieurs, dames, le Paris Saint-Germain. La Saint-Valentin approche, J-11 avant cette soirée qu'on esquive tous un an sur deux pour voir le PSG se faire taper en Ligue des Champions. On espère que ça se passera bien cette année et que ça se passera mieux, ça arrive vite en tout cas. Et ce soir, Walid Acherchour sort la palette, comme on dit à la télé.
Mais c'est pas reproduisable parce que tu as l'arme Kylian Mbappé dans ton équipe.
Bah tu l'as plus là du coup.
Tu l'as plus, il va falloir trouver des leviers... une tactique notamment pour la compenser, même si ça va être très très compliqué. je voulais un peu en parler ce soir parce que hier on a un petit peu on l'a un petit peu évoqué dans Génération After, mais j'y ai réfléchi aujourd'hui. Et moi, j'ai toujours dit que j'étais pas le plus grand fan de ce changement de système en milieu de première partie de saison. Le 3-5-2 qui devient 4-3-3 et qui devient 4-4-2 là sur les dernières semaines avec l'incorporation de Solaire, 4-4-2 à plat, 4-4-2 losange. Moi, j'aimerais revenir à la première version du Paris Saint-Germain de Galtier, qui est pour moi la meilleure version qu'on a vue depuis le début de saison, avec un Nuno Mendes très très haut, avec une complémentarité avec Neymar notamment sur le côté gauche, et surtout une défense à trois qui permet de protéger un petit peu plus les errements défensifs du Paris Saint-Germain. Donc avec ou sans Kylian Mbappé, bien évidemment que j'appelais de mes voeux ce retour à trois, surtout que on va avoir Kimpembe qui a rejoint l'entraînement collectif sur les derniers jours, qui va aussi peut-être permettre à Galtier d'avoir plus de solutions défensivement. Mais si c'est pas Kimpembe, une incorporation d'un Danilo Pereira qui, à chaque fois qu'il a joué en défense centrale, dans une défense à 4 ou dans une défense à 3, il a plutôt été très solide cette saison. Peut-être un Mukiele aussi, stopper droit comme il l'a déjà fait à Leipzig, pour permettre à cette équipe du Paris Saint-Germain d'avoir un peu plus de qualité défensive et surtout aussi de libérer les pistons qui sont Nuno Mendes et qui sont Hakimi. C'est la première phase de mon propos. Et la deuxième, c'est de mettre Lionel Messi en faux numéro 9, en essayant un maximum. De toute façon, quoi qu'il arrive, on le sait, Lionel Messi défend très très peu. Et je pense qu'il faut le décharger totalement et volontairement, en l'assumant complètement des tâches défensives face au Bayern ou sur les prochaines semaines sans Kylian Mbappé, le recentrer un peu façon argentine pour que les joueurs autour travaillent. Mais il faut mettre un système qui peut compenser son manque de travail défensif avec une certaine liberté. Et j'aimerais moi que Galtier travaille ça sur les prochaines semaine et qu'il aille dans ce sens pour mettre ce Paris Saint-Germain dans les meilleures conditions et ses stars dans les meilleures conditions. Donc avec un Neymar un peu plus bas derrière Lionel Messi, des pistons, des milieux de terrain qui peuvent aussi se projeter et une assise défensive un peu plus forte. Quand je vois quelques compositions d'équipe avec Ekitike au poste de numéro 9 notamment, ou d'autres compos, moi je pense qu'il faut assumer ce parti pris là et ça peut être une solution viable sans qu'il Mbappé.
32-16, supporters parisiens, n'hésitez pas, appelez-nous, vous avez entendu Walid, venez réagir, d'accord ou pas avec lui. Juste avant de te donner la parole, Kevin, précision Walid, quand tu dis Messi en faux numéro 9, là, comment tu articules les trois devant, précisément, Serk? Messi seul devant et Neymar et Mbappé un peu en retrait?
Non, Mbappé sera pas là. Donc,
sans Mbappé.
Exactement, donc ce sera un 3-5-2 avec un milieu de terrain renforcé, c'est-à-dire une sentinelle. Je te donne un exemple, mais voir un Kimpembe, ça c'est mon idéal, hein, mais ça n'arrivera pas, mais Kimpembe, s'il est en forme, Marquinhos, Mukiele, Hakimi, Nuno Mendes en piston, un milieu de terrain avec une sentinelle, donc choisis Danilo Pereira ou Verratti, et après tu mets 2000 euros relayeurs qui travaillent, Neymar, Messi. Et je pense qu'avec la projection, avec le ballon, des milieux relayeurs, je parle sous le contrôle de notre entraîneur et éducateur Kevin Diaz, les pistons qui vont avoir beaucoup plus de liberté à la récupération du ballon, et un Messi qui sera libre et qui surtout va empêcher un peu les défenseurs centraux adverses d'avoir un joueur à apprendre, parce qu'il va tellement être entre guillemets se balader, donc il va avoir des zones mortes où les joueurs vont pouvoir s'engouffrer. Je pense que c'est la solution, je préfère cette solution là que de mettre un Ekitike par exemple contre le Bayern.
Après tu dis se balader, mais si là en ce moment déjà il se balade, quoi.
Enfin se balader positivement, quoi.
Kevin.
Non, écoute, une fois n'est pas coutume, non, je suis pas du tout d'accord avec le 3-5-2 proposé par Walid, parce que déjà moi c'est vraiment pas le système que je préfère. Je trouve que la défense à 3 ou à 5 quand tu n'as pas le ballon, Moi, je pense qu'il faut vraiment la maîtriser. Tu vois, il faut que ce soit dans une culture de club, comme c'est le cas en Italie, dans certains clubs, avec Conte à l'Inter ou à une époque avec la Juve notamment. Mais sinon, c'est très difficile comme ça de switcher de système à un autre. On l'avait vu d'ailleurs avec l'équipe de France à l'Euro 2021. Mais c'est un système qui est très, très difficile parce que, au final, tu crois qu'il y a plus de joueurs, par exemple, au niveau des centraux. Tu as 3 centraux. Mais finalement, tu as toujours un joueur qui sert à rien. Et donc, ce joueur-là, il est souvent perdu. Et surtout avec des joueurs comme Kimpembe, Marquinhos, Ramos ou Danilo Pereira, qui finalement, dans leurs anciens clubs ou dans leur sélection, ne jouent quasiment jamais à trois derrière. Donc, je te dis, quand ce n'est pas culturel, je trouve que c'est vraiment difficile à mettre en place. Et ensuite, alors, bien sûr, on pourrait penser que Hakimi et Nuno Mendes sont des joueurs plus à l'aise dans un 3-5-2, donc en tant que piston. Mais avec leur sélection, Nuno Mendes avec le Portugal, il jouera pas à 3 derrière, il jouera à 4 derrière. Ah ouais. Il a été plutôt bon quand il a
après,
joué.
Après, il joue très peu avec le Portugal, Nuno Mendes.
Non, mais il va jouer et il a mais joué à la Coupe du Monde.
Au Sporting Portugal, il jouait dans une défense à 3.
Oui, mais il va jouer aussi à 4, donc il va être, tu verras qu'il va être bon. Oui. Et Hakimi, on a vu avec
le Maroc, c'est circonstanciel. Je m'en fous, moi, qu'il soit bon avec le Portugal.
Non, mais je sais bien. Je dis juste que c'est des joueurs qui sont aussi capables d'être bons à 4. Ah oui, non, mais on pourrait penser à un moment qu'il serait vraiment, vraiment uniquement bon à 3. Mais ensuite, concernant Lionel Messi. Moi, Lionel Messi, c'est un joueur qui doit participer au jeu, même s'il fait très peu d'erreurs d'efforts défensifs, bien sûr, on le sait tous, mais il doit participer au jeu, tu vois, là,
avec le ballon, il va participer au jeu.
Oui, mais quand t'es faux neuf, il faut comme, tu vois,
avec une totale liberté.
Tu comparais avec l'Argentine, il joue toujours avec un neuf.
Oui, bien sûr.
Que ce soit Lautaro ou
mais il est déchargé
Navarrez
défensivement de, parce que,
oui,
non, mais il y a une
déchargé défensivement, c'est autre chose. Mais quand on a le ballon, il a quand même besoin de cette planche. Ça a toujours été le cas au Barça. Avec Luis Suarez, ça a été le cas à chaque fois qu'il a joué. Alors après, quand il y avait Xavi, Iniesta et que c'était lui le faux neuf, voilà, c'était une machine qui était tellement huilée que c'était vraiment un autre univers. Mais voilà, moi, c'est, je pense pas que le Paris Saint-Germain, vraiment, c'est une question de tactique. Ça va être plus une question d'animation. Parce que même quand le Paris Saint-Germain joue à 4, finalement, ils sont à 3 derrière. Si tu regardes bien, t'as souvent un Danilo qui vient s'insérer avec les deux centraux.
Donc pourquoi pas l'assumer?
Non, parce que tu l'assumes pas, parce que quand t'as pas le ballon, tu défends à 5 avec des joueurs qui sont pas à l'aise, en tout cas pour les 3 centraux, qui sont rarement à l'aise. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que Marquinhos était un peu en difficulté, lui qui quasiment, sur les 10 dernières années, n'a joué exclusivement que dans des défenses à 4.
Bah, je vois pas une amélioration à 4 défensivement du Paris Saint-Germain. Moi, personnellement, quand tu parlais de système sur le côté culturel, etc., je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. Quand tu compares à la sélection, un peu moins, parce que pour moi, le Paris Saint-Germain a eu quand même un bloc d'un mois et demi, deux mois avec ce système-là.
Deux mois, c'est rien dans le foot.
Oui, enfin oui, c'est rien, mais dans une saison, entre le système que Galtier a utilisé en début de saison et celui sur lequel il s'est rabattu ensuite, moi, je vois quand même je vois pas d'amélioration.
Oui,
je vois pas d'amélioration.
Après, il y a aussi un contexte post-Coupe du Monde.
Mais même avant la Coupe du Monde, c'était pas extraordinaire.
Non, ça c'est sûr.
Le 4-3-3.
Mais c'était quand même mieux.
Oui, mais le problème, c'est que
c'est quand même beaucoup mieux.
Enfin, non, moi, je pense que
le PSG avant la Coupe du Monde, c'était quand même mieux qu'après la Coupe du Monde.
Mais la meilleure période du Paris Saint-Germain reste pour moi avec le 3-5-2. Tu prends le début de saison, tu prends les matchs en Ligue des Champions, notamment contre la Juventus la première mi-temps, tu prends le match contre Lille où ils gagnent 7-1, c'est en 3-5-2. Voilà, je pense que je trouve que en termes de repères et même en termes de solidité défensive, moi à 4, clairement, à 4 avec Ramos dans la défense centrale notamment.
Ce sera très vite Kimpembe, Marquinhos.
Avec Hakimi et Nuno Mendes, oui, mais même avec Kimpembe. Kimpembe, tu sais pas à quel niveau tu vas le récupérer. C'est aussi, je pense, moi, une décision un peu plus cohérente de se dire que Kimpembe, qui va peut-être pas être à 100%, d'essayer de mettre un cadre en 3-5-2 pour avoir.
Je vois vraiment pas Sergio Ramos s'il est remis de son souci de ce week-end.
Pour l'instant,
sur le banc.
Voilà, il est une chose adducteur. Il est forfait ce week-end.
Ah, mon avis, c'est pas de dire ce que Galtier va faire. Est-ce que Ramos va jouer
même,
ou pas?
Regarde,
mon avis à moi.
Oui, je sais, mais si on repart sur l'idée de Messi, il y a quand même un problème de verticalité et de profondeur.
Bah non, avec les pistons, tu vas en avoir.
Les pistons, c'est pas eux qui vont demander. C'est Hakimi qui va demander dans le dos du Upamecano.
Pas dans le dos du Upamecano, mais dans le dos de Davis, dans le dos de Cancelo. Nuno Mendes, quand tu regardes la première partie de la saison notamment, Nuno Mendes, la qualité de largeur et de profondeur qu'il a porté au PSG, le match retour contre la Juventus, son but, il vient comme ça. Les buts contre Clermont, contre Nantes, contre Lille, tout, voilà, c'était une liaison qui marchait énormément.
Pas, Oui, c'est possible.
Donc la profondeur, possible, il va de toute façon, quand il arrive dans ton effectif, ouais, aujourd'hui, il va voir, il n'y a que les Pistons qui vont te l'apporter.
Donc si tu veux,
Kevin,
tu
la... et après, je prends au 32-16 beaucoup d'appels de supporters du Paris Saint-Germain.
Si tu veux, Kevin, dernière chose, mais si tu veux de la profondeur de la part des Pistons, t'es au courant que tu vas assumer un contre un derrière. Avec Moussiala, avec Gnabry, avec Sané.
Pas forcément, avec le milieu de terrain un peu renforcé, les trois derrière.
Non, mais tu peux pas me dire que c'est Marco Verratti qui vient de prendre un rouge parce que une fois, il a dû aller tacler le long de la ligne, pour compenser justement la montée de son latéral.
Il y aura trois milieux. Il y aura trois milieux.
Mais d'accord, mais bon, les trois milieux, ils sont dépassés. C'est-à-dire que t'es dans la transition, t'es dépassé, tes pistons sont passés, tes milieux, t'es en train d'attaquer. C'est-à-dire que
Peut compenser une montée de Mendes ou l'inverse.
Tu acceptes, dans ce cas-là, tu acceptes. Si tu veux que la profondeur, elle vienne des deux côtés et qu'elle vienne de tes pistons, c'est-à-dire que tu acceptes le 1 contre 1, il faut savoir que, il faut l'accepter.
Tu peux le faire de manière intelligente.
Non, mais c'est très difficile. C'est-à-dire que si tu demandes à tes pistons de se projeter, tu vas avoir des situations.
Mais c'est quoi ta solution, toi, en fait? Explique-moi, alors, parce que c'est quel système tu veux faire, alors.
Les gars,
parce que si t'assumes pas le 1 contre 1, alors à 4, ça va être encore pire à 4.
Pourquoi ça va être pire?
Parce que défensivement et offensivement, à quel moment Nuno Mendes et Hakimi vont pouvoir contre-attaquer si déjà dans leur idée, ils vont devoir déjà défendre et essayer.
Bien sûr que tu vas devoir défendre.
Oui. Mais t'es au Parc des Princes, va falloir aussi quand même faire un résultat.
Il y a quand même une différence entre monter lorsqu'il y a une action et demander à tes pistons de prendre la profondeur. C'est-à-dire que ce seront les uniques joueurs qui vont prendre c'est pas Fabianis qui va prendre la profondeur dans le dos d'Upamecano.
Non. Donc, mais ça va être les pistons.
C'est pas Messi non plus.
Ça va être les pistons. Et s'il perd le ballon parce que c'était ta question, voilà. Ça va être au milieu de terrain relayeur. Au milieu de terrain relayeur de compenser. De pouvoir, tu sais très bien comment ça se passe dans le football. C'est à qui il monte. Fabian Ruiz, il peut compenser.
Difficile.
Comment fait Casemiro quand Marcelo montait à la grande époque? À un moment donné, il pouvait compenser.
Oui.
Les gars, vous n'êtes pas d'accord ce soir? Beaucoup de messages sur le direct studio, dans le chat de la chaîne.
Il fait juste ce soir.
Non, pas du tout.
Là, vous n'avez pas l'air très d'accord. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde ce soir qui n'est pas trop d'accord avec toi, Walid, là, sur le passage à 5.
Non, mais c'est. S'ils sont satisfaits du PSG actuellement en 4-3-3, pourquoi pas? Moi, je suis prêt à débattre.
J'aime bien quand tu fais ça. J'aime bien.
Non, mais c'est la réalité.
Donc, en gros, il y a quoi? Il n'y a qu'une solution, c'est la tienne?
Non!
Que Walid est seul contre tous qu'il a tort.
Mais c'est pas une question d'avoir.
Vraiment contre tous, finalement. Il n'y a pas un mec d'accord avec moi.
Tu veux la vérité, Walid? Ouais. J'ai pas un message pour l'instant.
D'accord,
qui valide ce système.
Je suis seul contre tous.
Voilà. Jules qui écrit libérer les pistons. Pourquoi il n'y a personne dans la surface pour recevoir les centres? Il y a Jean Declan qui écrit deux lignes de 4 avec Nuno et Hakimi au milieu et Neymar Messi devant. Sur le chat,
donc 4-4-2 quoi avec Messi et Neymar aussi.
Peut-être. Et on va demander l'avis à l'INSOR. On a aussi beaucoup d'appels au 32-16 de supporters du Paris Saint-Germain et c'est donc l'INSOR qui est là ce soir. Salut l'INSOR.
Salut.
Salut l'INSOR.
C'est d'origine quoi ton prénom?
C'est jamaïcain, c'est Linford.
Ah, Linford, on m'a dit n'importe quoi dans l'oreillette, c'est pas grave.
Adrien l'a mal noté.
Ouais, Adrien, ouais, bah, écoute, c'est son dernier soir ce soir. Le prochain, il est notre ami, t'inquiète pas. Linford, t'as entendu
Je crois qu'Adrien n'est pas d'accord.
T'as entendu Walid et Kevin.
Est-ce qu'on va trouver quelqu'un d'accord avec moi?
Est-ce que t'es d'accord? Est-ce que tu es l'homme en France d'accord avec Walid?
Malheureusement, non. Je suis pas d'accord avec toi, Walid. Tout simplement parce que je ne sais pas si vous avez vu le match de ce week-end. Alors, ok, enfin le match de
Montpellier, mardi, je crois. Mercredi.
Mercredi, oui. Ok, alors ce match-là, on ne peut pas le prendre comme référence au vu de l'adversaire. Montpellier, ce n'est pas un adversaire extraordinaire. Mais je trouve qu'on a vu pas mal de bonnes choses, notamment en fait à la sortie de Kylian Mbappé. Déjà, on a vu une équipe qui courait. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Donc, on voit que...
Linford, si tu me permets, on a vu comme une équipe libérée.
Oui, exactement.
Ça paraît idiot de le dire, parce que tu perds l'un des trois meilleurs joueurs du monde. Tu as un autre des 10 meilleurs joueurs du monde, Neymar, en fonction des affinités avec lui et son niveau ces dernières années. Mais moi, j'ai vu comme toi, et je te laisse finir tout de suite, mais j'ai vu clairement des joueurs, Fabian Ruiz libéré. J'ai vu des joueurs libérés parce qu'ils n'ont plus les cibles. Tu vois, il n'y a plus des cibles. Ah, ils sont où? Ils sont où? Il faut leur donner parce qu'il faut que ça brille. Non, là, j'ai vu des joueurs plus libérés avec Messi, leader d'une équipe.
Les gars, pardon, 23h15, vendredi 3 février 2023.
On l'a trouvé.
J'ai quelqu'un qui est d'accord avec Walid sur Twitter. Le hashtag RMC Live, c'est Tim Riggins à fond avec Walid. Paris doit évidemment jouer à 5 au lieu de la bouillie proposée à 4.
Merci.
Désormais. Toi, comment tu... Vas-y, donne-nous là ton 11 type là pour les prochaines semaines.
Moi, je repartirais sur la même compo que ce qui a été fait du coup ce mercredi avec avec Messi et Kitike du coup devant, avec Neymar du coup alors Neymar plutôt en numéro 10 parce qu'on sait que Neymar c'est le seul des trois qui fait les efforts défensifs, avec toujours du coup Fabian Ruiz, Verratti s'il est apte, et Renato Sanchez que je trouve qui a fait un très bon match contre Montpellier, et du coup une défense à 4. Alors par contre je mettrais plutôt Danilo Marquinhos du coup, parce que Danilo c'est celui qui nous a donné le plus de certitude sur les dernières prestations, donc oui je mettrais plutôt Danilo Marquinhos derrière, mais voilà, ouais, moi je pense que ce serait ma compo
4-4 de losange, donc avec Ekitike Messi, c'est ça?
Ouais,
c'est intéressant, c'est une variante différente, pourquoi pas.
En fait ce que j'aime bien enfin avec cette composition, c'est que on va dire que ça peut être une composition assez hybride où Sanchez serait un peu plus libéré. En gros, il pourrait occuper le couloir droit et aussi insérer le milieu de terrain dans les moments plus
compliqués. Toi, t'as vu le Renato Sanchez de Lille, hein?
Non, mais il y a une chose qui est sûre. Après, malheureusement, c'est un joueur qu'on adore. Enfin, en tout cas, moi, que j'adore. Mais si Renato Sanchez était à 100% depuis plusieurs semaines, ça aurait été vraiment une option intéressante parce que il a cette puissance. Il a quand même ce volume de jeu quand il est apte. Hein, je le dis bien pour pouvoir aider le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, pour revenir. Après, ça restait que Montpellier, une équipe quand même en difficulté cette saison, même s'ils ont fait un match correct pour ce qu'ils arrivent à produire. Mais après, le Bayern, ça va être un autre match, ça va être une autre réalité. Mais je crois en effet que ce 4-4-2, pas forcément en losange, parce que c'est hybride en fonction des séquences où tu as ou tu n'as pas le ballon, mais ça peut convenir.
Et d'ailleurs, je rappelle qu'on sera dans quelques minutes avec Paulo Breitner, hein, qui nous racontera aujourd'hui, il y avait conférence de presse et des propos assez étonnants de Nagelsmann. Linford, merci beaucoup, bonne soirée. Tu reviens quand tu veux dans l'after.
Bonne soirée.
Salut Linford, bonne soirée à toi.
Bye bye. Pas mal d'appels au 32-16, on va voir si Adrien s'est pas trompé dans les prénoms. Il y a Bernard qui est là, salut Bernard. Allô?
Allô, oui, c'est Lucas.
Ah! Non, je charrie, m'avait donné le bon prénom. Ça va, Lucas?
Ça va,
vous? Salut, ça va, super.
Salut, Lucas.
Merci d'être
salut.
Là, Lucas. Bon, plutôt team Acherchour ou team Diaz, là, sur cette compo parisienne?
Moi, je suis plutôt team 3-4-3.
Ah, donc tu rejoins plutôt Walid?
Deuxième.
Ouais. Mais en fait, ouais. Walid, peut-être, était seul au monde. Et puis, à force de développer ses arguments, il est en train de convaincre les foules. Et dans une demi-heure, tout le monde sera d'accord avec lui, peut-être. Ouais. Pourquoi d'accord avec ça, Lucas?
Peut-être que le direct studio ne résume pas toute la pensée des acteurs.
Mais par contre, 3-4-3 ou 3-5-2? Parce que...
Alors avec 3-4-3, avec plutôt milieu de terrain, avec le portugais Danilo Pereira.
Ok.
Et avec à côté de lui un Verratti ou un Vitinha ou Sanchez qui est plutôt pour monter.
Et les trois devant, c'est quoi?
Et les trois devant, je mets Warren, Zaire Emery avec Messi et Neymar.
Ouais, enfin c'est un 3-5-2 quoi. Parce que Zaire Emery il va jouer au milieu de terrain, il va avoir un champ d'action quand même.
Ah ouais, donc Walid il veut vraiment avoir lui dit un 3-4-3.
Non mais s'il m'avait mis un attaquant, bon il en reste plus beaucoup. S'il m'avait mis Kitike, c'est un 3-4-3, mais là c'est pas Zaire Emery, c'est un 8 Zaire Emery aujourd'hui.
Ouais mais je pense qu'il faudrait surtout pour laisser place aux jeunes aussi quoi. Je pense que c'est aussi ça pourrait être aussi prouver aussi que Galtier avec le jeune comme Warren qui.
Tu penses que Zaire Emery va démarrer contre le Bayern?
Bah moi j'aimerais bien qu'il démarre contre le Bayern, ouais. Ouais. Il fait par rapport à son début de saison, qu'il fait des bons matchs avec Paris et je pense que si ça peut lui donner la confiance aussi en lui avec lui quoi.
Le direct studio est aussi en train de se retourner. Hein. Jamel Simpson, évidemment. Bonsoir à tous, je suis tout à fait d'accord avec Walid, Gudge également, Sylvain Lombinet aussi. Donc.
Non mais de toute façon c'est plus l'after foot, c'est The Voice ce soir. Tout le monde se retourne.
Ouais mais au début il se retournait pas du bon côté quand même.
Bah non, il se retournait pas. Ils n'étaient pas d'accord. Puis après ils ont écouté, ils ont tendu l'oreille quoi.
On va être avec Polo dans quelques instants. Lucas, tu veux rajouter quelque chose?
Non, pas du tout. Je vous remercie beaucoup.
Bah merci à toi en tout cas, tu reviens quand tu veux dans l'after Lucas.
Pas de soucis, merci beaucoup.
Ouais, allez, Lucas, à très vite. Bye bye.
C'est pas retourné du bon côté mais ça
23h20, c'est l'after en direct jusqu'à minuit avec Walid Acherchour, avec Kevin Diaz, avec vous tous au 32-16. Vous commentez l'émission également, on est en direct vidéo sur la chaîne Twitch RMC Sport dans quelques
minutes.
C'est
comment la Twitcherie?
L'OM au programme, la Twitcherie commente également.
Ouais, j'ai d'accord, moins, pas d'accord.
J'ai moins pu aller voir les messages là dans l'ensemble. Bah, je demandais à Lému qui est là-haut qui me fasse un texto pour me donner l'ensemble. Il aurait même peut-être pu lancer un sondage, tu vois, moi, si j'étais là-haut. Ouais. Il l'a pas fait, mais ouais, il aurait Polo Breitner est avec nous.
Oh, Polo.
L'Allemagne. Salut, Polo.
Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis.
Salut Polo.
Salut Polo.
Polo,
le pays du grand bluff.
Eh oui. On va voir, on va voir. Parce que pas de Mbappé contre le Bayern le 14 février, selon le Paris Saint-Germain. Trois semaines d'arrêt pour l'attaquant du PSG. Mais en Allemagne, on n'y croit pas trop. Écoutons aujourd'hui Julian Nagelsmann et l'éclairage de Polo dans la foulée.
Je ne pense pas qu'il sera absent. Je ne sais pas ce qu'il a exactement. Je suis loin pour établir un diagnostic. Mais si ce n'est pas une blessure profonde, il jouera. C'est relativement vague sur le site internet du PSG. Je ne peux pas imaginer qu'il sera absent. Bien sûr, ils peuvent bluffer. Je me prépare pour le match comme s'il allait jouer.
Alors je suis sur le site du PSG quand même, bon, c'est écrit noir sur blanc, c'est vrai que c'est laconique, mais après examen, Kylian Mbappé souffre d'une lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral. Sa durée d'indisponibilité est estimée à 3 semaines. Voilà ce qui est écrit. Polo, c'est une petite musique qui monte en Allemagne là ou c'est seulement Nagelsmann qui a...
Non, il n'y a que Nagelsmann et je crois qu'on en discutait hier soir. Et il se fait que cet après-midi, j'étais avec des contacts en Allemagne en train de discuter d'ailleurs de Julian Nagelsmann. Et moi, je lui disais, écoute-moi de France, j'ai l'impression qu'il fait n'importe quoi au niveau de sa com ces derniers temps. Et ils m'ont confirmé, qu'il dit, mais on ne comprend pas ce qu'il fait. Vous savez, souvent, quand vous êtes dans des bonnes périodes, les clubs ou des mauvaises, c'est quand même important que le coach, il sache exactement être dans le bon tempo, que par rapport aux journalistes ou par rapport à la population, il arrive à expliquer ce qui se passe et que les gens ben, soient rassurés au minimum. Et là, en fait, Nagelsmann, pourquoi est-ce qu'il fait ce genre de communication et ce genre de sortie en disant une communication très vague ? Il n'y a pas vraiment d'explication crédible. À partir du moment où le PSG dit qu'il sera absent lors du match aller contre le Bayern, pourquoi ne pas le croire ? Mais on pourrait renvoyer l'appareil d'ailleurs. Le PSG pourrait dire, oui, vous faites la même chose avec Sadio Mané pendant qu'on y est. C'est-à-dire que c'est tout ça est difficilement compréhensible. La seule chose, la seule explication, entre guillemets, que j'ai réussi à trouver, c'est de se dire que Nagelsmann pense évidemment que le PSG est plus fort avec Kylian qu'avec sans Kylian. Et donc, lui, il veut motiver ses troupes comme si l'un des meilleurs joueurs du monde était présent pour le match aller. Et c'est la seule chose que je me suis dit. Je me disais, mais alors, faut vraiment chercher dans les coins. Mais il n'y a pas d'explication rationnelle pourquoi Nagelsmann dit ça. La seule chose que je peux vous dire, c'est que depuis quelques semaines, et notamment lors de sa crise de résultats et tout ça, il n'est pas bon en ce moment, Nagelsmann. Ouais. Il n'est pas dans le bon tempo.
D'ailleurs, il a annoncé, lui, aujourd'hui, le forfait de Sadio Mané. Pour le match face au PSG.
Est-ce que c'est du bluff?
Ouais, c'est du bluff.
Mais c'est ça.
Ouais, on sait plus. Tiens, d'ailleurs, petite. Est-ce que c'est en rapport avec ça? Coup de gueule de Manuel Neuer aujourd'hui, qui concerne Nagelsmann et son entraîneur des gardiens.
Ouais, alors Tapalovic, évidemment, l'entraîneur des gardiens a été remercié dernièrement suite à des déclarations notamment de l'actuel Allemand prêté à Monaco, Nübel, Alexander Nübel, et en fait. Tout ça, alors il faudrait que vous compreniez toute la séquence qui s'est passée depuis la blessure de Manuel Neuer. En gros, on est passé « Ah, c'est grave pour Neuer, comment c'est possible, on va l'excuser », jusqu'à ce que des éditorialistes très importants en Allemagne commencent à se dire « Mais peut-être que Manuel Neuer est tout simplement sur la fin et qu'il ne portera plus le maillot du Bayern Munich ». Il se fait que le Bayern Munich a... Parce que moi, mon analyse directe lorsque j'ai appris, par exemple, que Sommer allait être le gardien du Bayern, c'est que ça veut dire que Nübel n'aura jamais sa chance au Bayern Munich et que c'est fini pour lui. Or,
de toute façon,
pas.
Polo, excuse-moi, mais il ne faut pas qu'il ait sa chance au Bayern Munich, je crois.
Je sais pas trop.
Il a bien peur qu'il n'ait pas le niveau du Bayern Munich. Déjà qu'il a du mal à avoir le niveau de Monaco.
Il a 25 ans, si je me trompe pas, Nübel. Ce que beaucoup de personnes ont oublié, c'est qu'à 25 ans, il n'était pas fini, Manuel Neuer non plus.
C'était quand même une autre galaxie.
Il était capable de faire un arrêt quand même.
Non, mais c'est, je suis pas tout à fait d'accord avec vous là-dessus. Manuel Neuer a une croissance relativement lente. Moi, je me rappelle très bien lorsqu'il était à Schalke à 20 ans, 22, 23, 24, jusqu'à 25 ans, il fallait attendre qu'il soit complètement. Moi, je l'ai vu complètement déguingandé avec les bras dans tous les sens. On savait pas on se comprenait pas que ce qu'il faisait quoi.
Oui, il a eu un petit bas, mais à 18 ans, il est quand même demi-finaliste avec Schalke en Ligue des Champions. Là, Nübel.
Oui, il fait ce match. Oui, mais il faut regarder tous les matchs qu'il fait, c'est compliqué. Nübel, non, mais moi je regarde juste ça. Mmh. Et ensuite, on apprend que Tapalovic se fait virer via le directeur sportif, évidemment Salihamidžić, parce qu'on apprend que Tapalovic n'a pas fait le boulot, en gros, en n'ayant pas communiqué avec Nübel, qui était la jeune génération, par rapport évidemment à Ulreich, 34 ans, et Manuel Neuer. Mais, et donc. ça a été tout ça. Le Bayern, en fait, a fait comprendre que la faute que Nubel ne soit pas revenu cet hiver était peut-être liée à cette relation très compliquée entre Tapalovic et Nubel. Et donc, Manuel Neuer, c'est quand même le gars qui bosse avec lui depuis 11 ans et demi, depuis 11 ans et demi. Et donc, Manuel Neuer l'a très, très mal pris, cette séparation. Et là, il est en train, entre guillemets, de viser son club, le Bayern de Munich, en disant c'est pas normal ce que vous avez fait, que c'est la pire chose qu'on ait fait de toute ma carrière, etc. Et ça va remettre de l'huile sur le feu pour savoir est-ce que Manuel Neuer sera dans les cages sportivement l'année prochaine au Bayern Munich, ou est-ce que c'est tout simplement des séparations à l'amiable qui se préparent, etc. Parce que c'est fini. Il y a quand même certaines personnes en Allemagne, dont Schumacher, qui ont demandé à ce que Manuel Neuer, vu son âge, arrête la sélection nationale pour se concentrer sur le Bayern Munich. Parce que disons, il y a Ter Stegen, donc voilà, etc. Donc c'est vraiment des séquences qui sont très longues où il y a des tiroirs dans tous les sens. C'est compliqué une fin de carrière pour les grands champions.
Et le Bayern qui jouera son dernier match dimanche à Wolfsburg avant d'affronter le Paris Saint-Germain dans
défense à 3 ou pas. Réponse dimanche.
On surveillera ça, bien sûr. Merci Polo, bonne
Merci
soirée.
Salut Polo.
À très vite.
Et regarde les matchs de Nubel.
Et sur le Direct Studio, Smaïn écrit, il veut garder ses joueurs sous pression, Nagelsmann, en parlant de Mbappé. 23h27, continuez à commenter l'émission sur le Direct Studio, sur le chat de la chaîne Twitch RMC Sport, où l'after est en vidéo, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, de 20h à minuit. On est en direct jusqu'à minuit avec Walid Acherchour, Kevin Diaz. Dans un instant, l'OM au programme. La vie tranchée de Kevin Diaz pour l'OM, c'est maintenant ou jamais. Alors oui, ça veut un peu tout et rien dire. Mais il va développer tout ça, Kevin, et 32-16, supporter marseillais, pour réagir à l'avis de Kevin tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Thibaut Giangrande.
23h30, merci d'être là ce soir, en ce vendredi 3 février, avec Walid Acherchour, Kevin Diaz. Merci d'être à l'écoute, d'avoir choisi l'after, peut-être plutôt que le cinéma. Vous avez bien fait, pas terrible cet Astérix. On est en direct jusqu'à minuit, on parlera de l'Olympique Lyonnais dans une dizaine de minutes. Jean-Michel Aulas, Laurent Blanc aujourd'hui en conférence de presse, beaucoup de choses à retenir. Blanc qui est parti au milieu de la conf de presse un peu énervé, Aulas plutôt positif, optimiste pour la suite, on l'écoutera et on en débattra à Lyonnais au 32-16. Mais d'abord, tout de suite, l'OM au programme.
Il a été adoré dans les clubs par lesquels il est passé, avec sa technique particulière et ses dribbles chaloupés. C'est un footballeur un peu brésilien.
Avis tranché, Kevin Diaz. Et là, on parlait de toi, Kevin. Véridique, ouais. C'est pas une...
Et Dordi Plan, joueur français qui a évolué pendant 12 ou 13 ans aux Pays-Bas.
Supporter marseillais, 32-16. Écoutez l'avis de Kevin et venez en débattre. Kevin parle de l'OM ce soir.
Écoute, moi j'avais envie de parler de l'OM parce que du coup cette semaine j'avais pas eu l'occasion après cette fin de mercato quand même assez mouvementée et plutôt qualitative, même si on va attendre de voir parce que on m'a demandé ce que je pensais de Vitinha, mais pour le coup je dois dire que Braga c'est pas l'équipe que j'ai suivi le plus cette saison, même si je connais bien sûr le joueur, mais on va attendre de juger sur pièce. Et pour le reste, forcément, avec ce qui se passe au Paris Saint-Germain, avec la blessure de Kylian Mbappé, la méforme quand même générale ou l'ambiance un peu morose du côté de la capitale, si l'OM veut au moins, au minimum, sans parler d'abord de titre, même si je vais y venir, mais au moins battre enfin le Paris Saint-Germain au Vélodrome dans les deux possibilités qui vont arriver avec cette première dans quelques jours en Coupe de France. Ah, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais pour arriver à battre le Paris Saint-Germain. Pourquoi pas leur mettre un premier petit coup sur la tête en les éliminant de la Coupe de France et ensuite continuer à leur mordre les chevilles en championnat pour pourquoi pas essayer dans un deuxième temps de grappiller des points pour les pousser dans leur retranchement dans les derniers mois de compétition. Et vraiment, je sais que les supporters marseillais, pour en connaître beaucoup, ont envie de cette victoire au Vélodrome. Je sais que les supporters marseillais, au fond, même si certains ne veulent pas se l'avouer, ils ont envie de jouer le titre. Et ça fait quand même, depuis Didier Deschamps, donc ça fait quand même une bonne dizaine d'années que...
Quel coach, hein, Kevin.
Et ouais. C'est vrai. Quel coach. Et c'est vrai que ça fait quand même une bonne dizaine d'années que, voire plus que l'OM n'a pas joué le titre, disons, jusqu'au bout, jusqu'aux dernières journées.
Et cette année, c'est le bon moment.
Cette année, en tout cas, je ne sais pas si c'est le bon moment. Ça, on va le voir très, très bientôt.
C'est maintenant ou jamais.
Franchement, toutes les cartes sont en leur main. Maintenant, ils ont quand même Tu vois, ils ont, on va dire qu'ils peuvent faire la suite, ils peuvent faire la couleur, ils peuvent faire le brelan. Donc, ils ont quand même un sacré jeu en main. Et il va falloir après un peu d'audace et un peu de chance, bien sûr, pour aller chercher cette.
C'était censé monter.
Ouais, parce que là, il a pas.
Le brelan, t'es redescendu.
Il a pas maîtrisé.
La suite, la couleur, la double brelan, c'est moins bien.
Non, non, je veux dire que tu as beaucoup de possibilités.
J'ai cru que ça montait pour aller jusqu'à la quinte.
Non, peu importe.
Tu
as beaucoup de possibilités. Bon, de toute façon, Walid, c'est pas jouer au poker, donc faut pas qu'il parle. Mais
t'as vu, c'est toi qui as parlé. Ouais, il vient sur moi.
Non, 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 non,
j'ai vu.
Non,
non. J'ai vu qu'il était.
Il a le droit de dire où est la hauteur.
T'étais dans le dos.
Et pour le coup, c'est moi qui ai éliminé Kevin du tournoi de poker.
Mais non.
RMC Sport Game.
Ah ouais, d'accord. C'est pour ça qu'il s'attaque pas à toi. Ouais,
il a gagné une mallette.
32-16 pour réagir, supporter marseillais, d'accord ou pas avec Kevin Walid?
Moi, j'en ai parlé déjà hier. Bien évidemment que l'appétit vient en mangeant pour les Marseillais et qu'il y a quand même pas mal de perspectives intéressantes sur la deuxième partie de saison. Et moi, je peux pas m'empêcher de penser que les joueurs, que le staff, que Igor Tudor, que Pablo Longoria, sans le dire, parce qu'ils ont une communication qui est plutôt humble.
On leur demande pas de le dire, voilà, de créer sur tous les toits.
Mais je pense que dans leur tête, bien évidemment, qu'ils pensent à cette possibilité-là d'aller terminer une saison peut-être extraordinaire, avec la possibilité d'aller gagner une Coupe de France et d'aller gagner un championnat de France. Bien évidemment, on en est très très loin.
Moi, je dis d'abord, Walid, juste 30 secondes, même pas. C'est au moins jouer le titre jusqu'au bout.
Exactement, le jouer.
Rester à 3-4 points.
Mais je le disais hier soir, si tu n'y penses pas aujourd'hui, je sais pas quand est-ce que tu vas y penser.
C'est clair.
T'as une équipe du Paris Saint-Germain qui balbutie son football, qui vient de perdre son arme fatale devant, Kylian Mbappé, qui va enchaîner un run incroyable avec, donc, en te jouant deux fois à la maison, en jouant Lille, en jouant Monaco, en jouant deux fois le Bayern Munich. Et de l'autre côté, il y a un mercato qui reste quand même très intéressant, même si pour l'instant Malinovski est pas incroyable. Tu as Unai que t'as récupéré, le petit Vitinha que t'as acheté pour beaucoup d'argent, et ceux qui le suivent disent que c'est un joueur en très très grande forme avec des grandes qualités. Il manquait un numéro 9. Quand même, tous ces arguments là font quand même doivent montrer de l'ambition du côté de l'Olympique de Marseille.
Marseille qui jouera ce week-end contre Nice, hein, 22e journée Ligue 1, sera dimanche 20h45.
Ça, c'est un très bon match.
Le gros match
du
week-end.
Parce que Nice, ce que fait Digard en ce moment, j'aime bien. Donc,
Nice qui va gagner à Lens.
Ça va être un très gros match.
Le PSG sera à Toulouse demain.
Ils jouent contre Toulouse,
au Parc, demain à 17h. Et puis Marseille-Paris Saint-Germain, Coupe de France, mercredi, je vous rappelle, soirée exceptionnelle sur RMC. Le match, dans la foulée, l'after jusqu'à minuit.
Ce serait bien qu'il y ait une libre antenne juste après.
Ouais,
je sais pas si c'est possible.
Avec Nico Villas
et Thibaut Jean-Grande.
Ouais. Allez, ok, vendu. On la met. Allez, on ira jusqu'à 1h30 pour ce premier Marseille-Paris Saint-Germain avec le retour de la libre antenne.
Nous, on sera là juste pour vous.
Oui, exactement. Nous, on arrive.
Pour vous.
Compagnie.
Alors là, les gars, carrément, mais c'est.
Ouais, on est là uniquement pour
c'est,
ça.
C'est fluide. J'ai l'impression que c'est Messi-Neymar. 32-16 pour réagir, supporter marseillais. On a Jean qui a fait le 32-16. Salut Jean.
Et bonsoir, Master. Bonsoir, Thibault. Bonsoir, Walid. Bonsoir, Kevin.
Salut
Jean. Bienvenue Jean. Dans l'after, Jean.
Ah, ça fait plaisir de vous avoir un petit peu.
Bah écoute, on est content
de vous avoir. Max m'avait appelé hier. Max m'avait appelé hier pour Génération After, mais comme je suis entraîneur de foot, j'étais en plein entraînement, j'ai dit je peux pas. Mais ce soir, quand je vous ai écouté en rentrant, ben, j'ai dit tiens, je vais les appeler.
Bah, t'as bien fait, Jean. Merci beaucoup d'être là.
Pour parler. Alors oui, je suis assez d'accord. C'est un sapin de Noël actuellement quand j'entends les médias parler d'OM. Il y a longtemps, ça fait plaisir d'entendre parler du bien de ce club.
Un sapin de Noël, t'as dit, ou j'ai mal entendu?
Ouais, j'ai dit, on dirait un sapin de Noël, ça clignote de partout, tous les voyants sont ouverts, tout le monde nous voit.
Tu te rends compte, c'est nous les médias qui devons pousser les Marseillais à s'enflammer un peu.
Non, mais c'est vrai que c'est pas qu'on s'enflamme, on a tellement été, il faut le dire, depuis que la rivalité OM-PSG, moi je l'ai connue, j'avais 26 ans quand l'OM a gagné la Ligue des Champions, donc j'ai connu les grandes années OM. Et puis ensuite,
t'aurais pas 56 ans, Jean?
Dans ces eaux-là, oui. Ouais. et donc, ce qui se passe, c'est que là, je pense que depuis l'arrivée du Qatar, ce qui a été très bien pour le football français, bon, ça a mis un club un petit peu au sommet de l'affiche. Mais nous, notre rivalité, on a senti qu'on n'avait pas les moyens de pouvoir rivaliser avec les moyens du Paris Saint-Germain, avec les joueurs qu'ils ont. Et je pense que cette année, c'est la première fois que j'ai ce ressenti, on a tous ce ressenti, c'est qu'on sent qu'on peut les regarder dans les yeux. Il y a une image qui m'a frappé, je sais pas si vous avez remarqué, le match contre Nantes. Le match contre Nantes, quand j'ai regardé le banc de l'Olympique de Marseille, que j'ai vu Guendouzi, que j'ai vu Klos, que j'ai vu Payet, que j'ai vu Unai, où j'ai dit on a quand même un banc qui a de la gueule et on a quand même de la valeur ajoutée quand ces joueurs vont rentrer. Et je crois qu'au-delà de ça, Tudor a un groupe. Alors évidemment, il y a le coach qui les pousse à aller de l'avant. On sent qu'ils ont complètement ingurgité sa méthodologie. Mais ce qui est intéressant, c'est que en plus de ça, cette année, on a des joueurs qui ont un certain talent. On sent qu'il y a des joueurs qui ont une patte technique qui va donner de l'avantage. Et surtout, on a un joueur qui, je pense, est une image qui peut faire la différence dans des gros matchs, c'est Monsieur Alexis Sanchez. Parce que le match qu'il fait contre Monaco, les gestes qu'il a, même s'il y a des matchs où on ne le voit pas, forcément, mais le travail qu'il fait en sous-marin, le travail de SAP, il ne dit rien, il ne rechigne pas, il a 34 ans. Vous savez, je vous dis une chose, en Ligue des Champions, et il y a une chose aussi que je voulais ajouter, la Ligue des Champions de cette année, elle nous a fait, malgré la dramaturgie du match contre Tottenham, elle nous a fait un bien énorme parce qu'on a énormément appris. Ce mois de Coupe du Monde, où on est allé à Marbella, où il y a eu Tudor qui leur a fait ingurgiter ce football-là, je pense que lui aussi, Tudor a grandi avec cette expérience Ligue des Champions, peut-être ne pas commettre les erreurs qu'on a faites contre Tottenham, le non-match qu'on a fait contre Francfort, mais je pense que ça nous apprend énormément. Et surtout, je pense que oui, cette année, alors évidemment, vous avez mis un point essentiel sur le PSG, c'est que pourquoi ? Parce que le PSG ne va pas très très bien, parce que bon, en plus Kylian Mbappé ne sera pas là, notamment sur le match de Coupe de France, il en sera certainement le 26 février pour le Classico au Stade Vélodrome. Mais je pense qu'on peut les regarder dans les yeux.
Pas mal de messages là sur ton intervention dans le chat vidéo de la chaîne Twitch. La Honda 13 écrit totalement d'accord avec l'auditeur. Très bon auditeur également. J'ai une question, Jean. Est-ce que quand même, malgré tout ça, j'entends regarder les yeux dans les yeux, la vie de Kevin, etc., la série de l'OM. Est-ce que le match contre Monaco et la première période notamment te refroidit pas un petit peu dans cet optimisme général là?
Alors, je pense qu'il faut l'analyser de différentes façons. Je pense que, oui, alors, tu peux dire oui et non. Oui, parce que, effectivement, tu peux prendre 3-0, il ne faut pas se cacher, hein, on peut prendre 3-0, on peut y avoir 3-0 à la mi-temps pour les Monégasques, qui nous ont mis en difficulté. Les appels de Tain Yedder, évidemment, nous ont complètement déstabilisés. Golovin, ce soir-là, était en grande forme. Évidemment, le petit Ben Seguir nous a fait du mal. On voyait d'ailleurs, à un moment donné, les joueurs de l'OM qui regardaient Igor Tudor. Mais ce qui est assez exceptionnel, malgré on était mené 1-0, c'est qu'on a su, en deuxième période, rectifier le tir. C'est-à-dire que, clac, le coach parle, le coach fait un remaniement tactique, il sort Guendouzi et il a de la valeur ajoutée. C'est que je vous parlais de ce banc de l'OM, c'est une valeur ajoutée. Vous avez des joueurs qui sont remplacés et ceux qui rentrent apportent quelque chose. Ben toi tu vas pas bien aujourd'hui, ben, je vais t'en faire rentrer un autre qui va bien. Et celui qui va bien, qui va être bon aujourd'hui, c'est ça notre force aujourd'hui. Maintenant, évidemment, je suis assez d'accord avec la plupart de, on va dire, des consultants. Oui, nous avons une équipe qui, je pense, doit suivre son bonhomme de chemin. Il faut voir match par match. Je pense que parler du titre, même si on peut le regarder, mais comme ça, du coin de l'œil, je pense que l'objectif principal pour l'Olympique de Marseille, c'est de refaire la Ligue des Champions. L'OM se doit tous les ans d'être en Ligue des Champions.
Oui, non, mais bien sûr. Après pour l'instant, Jean, si tu as bien écouté, j'ai pas parlé du titre. Hein. J'ai dit déjà battre le PSG. Après,
t'as pas osé, mais on a senti que c'était ça le fond de ta pensée.
Juste, Jean, tu as dit que tu sortais de ton entraînement, tu entraînes où du coup ?
Oh, j'entraîne, je suis un modeste entraîneur.
Mais il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de modeste entraîneur.
T'es un entraîneur.
Est-ce que je peux passer le bonjour à mon club ?
Mais bien évidemment.
C'est le club du Football Club Vence-et-Ruines qui regroupe 3 villages, Colombie, le village où j'habite, qui est à côté de Béziers, Nissan et Montady, on est en départemental 4, on espère monter en départemental 3.
Et tu joues dans quel système, Jean ?
Non, on n'a plus le temps, les gars, on n'a plus le temps.
Si, Jean, on veut savoir le système de Jean.
Écoute, rapidement, vas-y, Jean.
Dimanche, on joue un match important. Je joue avec un 4-3-3 parce que c'est
Le 4-3-3.
Merci Jean.
4-3-3. Non, mais j'ai deux flèches. Okay. Et puis j'ai surtout. Voilà.
C'est allez, Jean, on a plus le temps. Merci en tout cas.
Merci Jean. C'était un régal.
Vive le football amateur.
Voilà. Et vive le football tout court. Merci à Béziers d'avoir choisi le foot dans cette terre de rugby.
On est là pour t'accompagner, Jean.
Salut Jean. Tu reviens quand tu veux dans l'after. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. 23h43, l'after continue en direct jusqu'à minuit sur RMC avec Kevin Diaz, avec Walid Acherchour et avec l'Olympique Lyonnais dans un instant. On écoutera Jean-Michel Aulas, Grande Aulas, aujourd'hui, supporter lyonnais. On vous attend au 32-16. Aulas, se voile-t-il la face? C'est notre question ce soir. Ça arrive, magnifique. Tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Thibaut Giangrande.
Avec Walid Acherchour, Kevin Diaz, dernière ligne droite de cet After ce soir. Merci à vous d'être là nombreux à commenter l'émission en direct vidéo sur la chaîne Twitch RMC Sport tous les soirs du lundi au vendredi de 20h à minuit. Vous commentez également sur Twitter le hashtag RMC Live, le Direct Studio. On parlait de l'OM, ce sera dispo en podcast dans quelques minutes. Christo écrit sur le Direct Studio, quand on voit le banc de l'OM cette année, on peut se dire que le titre reste possible malgré les faux pas avant Coupe du Monde. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait la même équipe. Et du coup, l'élimination en Coupe d'Europe reste encore plus en travers. Vous continuez de commenter, nous appeler si vous voulez réagir au 32-16 et notamment à ce sujet. Liverpool, Lyon, même combat, d'après Jean-Michel Aulas, le président du club champion de France entre 2002 et 2007, vainqueur de la Coupe de France en 2012, le dernier trophée, est venu s'expliquer en conférence de presse aujourd'hui.
C'était mieux avant, remonter au temps, premier cheveux blanc.
Eh oui, l'OL, dixième de Ligue 1, hein. Ça fait quelques années qu'il n'y a pas de titre. Mais pas d'affolement pour le président Jean-Michel Aulas aujourd'hui en conférence de presse.
Écoutez, je pense qu'il faut aussi avoir un peu de mémoire. Ce dont on parle, c'est une dixième place à l'instant T qui n'est pas satisfaisante. C'est vrai aussi que Liverpool en ce moment est neuvième. Il arrive dans le cycle d'un club comme le nôtre d'avoir une mauvaise performance. Donc voilà, donc je tiens la barre très fort. J'ai la certitude de faire du bon travail. Tous les clubs et les plus grands ont des passages à vide.
Donc Lyon
32-16, un supporter lyonnais pour réagir à ce que dit Jean-Michel Aulas, Kevin.
Donc Lyon est comme Liverpool en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc.
Bah, Lyon est comme Liverpool, a gagné la Ligue des Champions il y a 3 ans.
Ok. Mmh.
32-16, Jean-Michel Aulas.
Ils étaient en finale de Ligue des Champions il y a 2 ans.
Se voile-t-il la face? Surtout si vous pensez que non, hein, n'hésitez pas. Le 32-16, est-ce que quand on entend ce qui est dit aujourd'hui, finalement, c'est pas une déclaration qui prouve quelque part que malheureusement, après tout ce qu'il a fait au club, Jean-Michel Aulas est dépassé là, 2023. Non,
c'est extraordinaire en fait, Thibaut. Moi, je commence à vraiment baisser les bras avec l'Olympique Lyonnais et Jean-Michel Aulas. C'est que on nous raconte aujourd'hui qu'en fait, finalement, c'est de la faute à personne. C'est de la faute à pas de chance. Que c'est pas de la faute de Jean-Michel Aulas, c'est pas de la faute de Ponceau, c'est pas de la faute de Chéroux, c'est ni de la faute des coachs, c'est pas de la faute des joueurs. Voilà, c'est juste un mauvais cycle. Un cycle quand même qui commence à durer parce que
moment j'ai cru entendre que c'était la faute de Johnny quand même.
Oui, ça c'était sur la dernière semaine, mais il
a... D'ailleurs, parenthèse, il a proposé, alors il a mis quelques taquets à Johnny aujourd'hui, puis il a proposé une petite réconciliation. Jérôme Rotten veut l'organiser dans Rotten sans flamme, donc suivant.
Il lui a souhaité apparemment bon anniversaire, etc. Mais pour revenir sur ce que je disais, c'est extraordinaire ce club, c'est qu'on repasse la patate chaude, ça va aller. Là, il a dit. Donnez-moi 3 ans. C'est dingue, hein, c'est fou. C'est qu'en fait, les 3 dernières années, les 4 dernières années de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1 sont quelconques pour un club du standing de l'Olympique Lyonnais. Alors bien évidemment qu'il expliquera que au Final 8, ils avaient fait demi-finale de Ligue des Champions. Mais il faut rappeler à Jean-Michel Aulas que cette année-là, il termine 7e et que c'est le Covid qui permet aussi de rebattre les cartes. Même si ils ont fait une performance en Ligue des Champions, il faut le dire, mais en championnat. L'année dernière, je parle de cette année, 10e au classement. L'année dernière, ils sont 8e au classement de Ligue 1. C'est pas un épiphénomène. Ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais, cette équipe est en train de rentrer dans le rang. Et j'ai l'impression qu'en fait, on peut pas critiquer. On doit pas critiquer. Il faut avoir de la mémoire. Alors, enfin, moi, j'ai de la mémoire, je vais pas ressasser à chaque fois mon exemple.
Après,
mais...
toi, non, tu peux ne pas avoir de mémoire, t'étais pas né quand, quand Lyon gagnait des titres.
Bah, ça, le problème, c'est que j'étais en 3ème C quand l'Olympique Lyonnais était.
La fameuse 3ème C.
Exactement. La mythique, la légendaire.
Et là, tu l'as accompagné longtemps.
Exactement.
Est-ce que c'est parce que c'est ta dernière ou pas?
C'était ma dernière échéance scolaire. mais voilà, pour revenir sur ce qu'on disait. Toutes les déclarations, toute la conférence de presse, on a l'impression que tout ce qui se passe à Lyon, personne, quand on écoute Jean-Michel Aulas, on est tous des fous. Vraiment, tout ce qu'on raconte, tout ce qu'on dit, tout ce qui circule sont des mensonges. Tout ce qui se passe autour de l'Olympique Lyonnais, vous inquiétez pas, tout va bien. On a gagné 50 titres avec les féminines et avec les hommes. C'est extraordinaire l'Olympique Lyonnais. Il y a même pas un mea culpa, un état des lieux, une franchise. Non, on continue, on y va. Donc moi, sincèrement, j'ai plus les mots.
Kevin, je te donne la parole, juste 32-16, si vous voulez réagir, supporter lyonnais, je vais prendre Nassim dans un instant. Et juste pour être complet, parce qu'il a été très long aujourd'hui, il a dit, je cite, j'ai la certitude de faire du bon travail, voilà. Et je vais essayer de retourner en Coupe d'Europe dès cette année, puis Ligue des Champions la saison prochaine, et la plus haute place dans 3 à 5 ans.
Ouais, 3 à 5 ans.
Écoute, on lui souhaite.
En tout cas.
En tout cas. mais le truc, c'est que ce que tu disais, Walid. C'est que aujourd'hui la communication de Jean-Michel Aulas, qui il fut un temps fonctionnait, elle ne fonctionne plus.
Il a tellement dupé les gens sur les dernières semaines, dernières années.
Donc il y a un moment, quand tu te veux être un bon communicant, il faut quand même que ton message passe. Il faut que ton message arrive. Et là, on a quand même l'impression que, alors je ne connais pas tous les supporters lyonnais bien sûr, mais j'ai quand même l'impression que la proportion des supporters lyonnais qui croient encore ou qui adhèrent au message de Jean-Michel Aulas ou du board ou de la direction de l'Olympique Lyonnais, il se compte disons en centaines, mais peut-être même pas plus.
Non mais faut dire les termes, Thibaut, très rapidement, mais actuellement
dire les termes, ça c'est un truc très générationnel.
Non mais l'Olympique Lyonnais est un club has-been à l'heure actuelle. Mais clairement, c'est-à-dire que en Ligue 1, ils ont été dépassés par combien de projets? Le Stade Rennais est devant aujourd'hui, le RC Lens travaille mieux, l'Olympique de Marseille.
T'as la chance que Gilbert soit pas là. Pourquoi? T'as dit projet, t'aurais pris.
Non mais vous avez vu.
Un coup de règle sur les doigts.
Non, parce que c'est parce qu'il nous parle de projet là, il nous parle de 3 à 5 ans. On repart sur un autre projet de l'Olympique Lyonnais.
Un autre cycle.
Un autre cycle. C'est complètement dingue.
On va demander à Nassim de quel côté.
Il faut rien dire, c'est tout va bien.
Nassim, supporter de l'OL, bienvenue dans l'After, Nassim.
Bonsoir l'équipe.
Salut Nassim.
Ça va, Nassim?
Es-tu sensible au discours?
En fait, je pense qu'il y a un point qu'il faudrait souligner par rapport à Aulas en particulier. Il était KO debout. Il est acculé. Il est plus avec nous en fait. Moi franchement, honnêtement, au début j'étais en colère, je comprenais pas. Là. Mais en fait, j'ai vu la conférence de presse d'aujourd'hui et j'ai vu un homme qui était dépassé, il est encore dans les années 2000, il comprend pas ce qui lui arrive, il comprend pas. Et comme je crois que c'est Wally qui vient de souligner, bah il y a des projets qui sont, je pense pas qu'ils aient plus de budget que nous, qu'ils travaillent à mort, mais ils travaillent en tout cas, tu vois. Mais des Rennes, des Lens, oui. Ils ont juste
ils ont moins travaillé. De budget. Hein. Lyon c'est le deuxième budget de Ligue 1.
Ouais voilà, donc c'est qu'on a les moyens, donc normalement tu dois faire quelque chose. T'es pas dixième normalement, et c'est pas la première fois. Ça fait 3 ans qu'on est pas en Ligue des Champions, voire plus.
Sur les 4 dernières années, tu termines 10, donc t'es 10e là. On sait pas à quelle place, ils vont terminer. 8e l'an dernier, et l'année d'avant,
je vais poursuivre déjà. De 1, je pense que Aulas est KO debout. Faut même plus qu'il reste dans le football. Je vais aller plus loin. Faut même pas qu'il prenne la présidence de la FFF. Parce qu'il est KO debout, il est dépassé.
Il a pris un coup dur.
De 2, il y a un nombre d'incohérences dans leur discours d'aujourd'hui. J'ai rarement vu ça. Très rarement. Je crois que j'ai jamais vu ça, en fait. Honnêtement. Et tu vois que Bruno Chéroux, et ça a confirmé ce que je pensais. Je me suis dit qu'il allait quand même justifier un petit peu, montrer comment il travaille. Non, il ne travaille pas. Parce que toutes les pistes et toutes les recrues qu'on a pu avoir ne viennent pas de lui. C'est des anciens de l'OL. Ce sont des pistes Tagliafico, ça vient de Bots. Les Brésiliens, bah, ça venait de Juni. Et les autres, et les jeunes, les Sahel Koumendi, et etc., eux, ils venaient du recruteur côté des équipes de jeunes.
On peut considérer qu'il a fait venir quand même Amin Sarr.
Non, mais Lamine Sarr.
Juste pour terminer, les gars,
de toi à moi, ça doit peut-être qu'il va avoir une très belle carrière, mais de toi à moi, est-ce que tu connaissais? Est-ce qu'il avait fait
pour le coup, je le connaissais très bien, mais
Mais les gars, Nassim, si on se met deux secondes à la place d'Olas, et Nassim, tu vas me dire ce que tu en penses, parce qu'il s'est aussi félicité du mercato. Il a parlé d'un mercato ambitieux. Bon. Est-ce que si
mais
tu
non,
non mais attends deux secondes Nassim, tu vas donner ton avis, mais si on veut voir le verre à moitié plein, bon, tu te dis les infrastructures elles sont là, t'as la puissance financière, le deuxième budget de Ligue 1, Textor qui est arrivé, le club est plutôt sain, l'effectif est-ce qu'il est, il y a quand même des bons joueurs, peut-être qu'ils vont venir en forme, t'as le mercato qui a eu lieu.
Ouais, mais il est pas lucide. Si tu parlais à quelqu'un qui était lucide, je t'aurais dit ouais, OK, peut-être qu'il a son truc en tête. Il n'est pas lucide, ils n'ont pas de projet.
Mais surtout, ça pète de tous les côtés.
Regarde, tu peux pas dire que tu mises sur l'académie et tu fais pas monter El Arouche. Derrière, tu fais pas jouer les jeunes et tu maintiens des Aouar et des Moussa Dembélé qui vont partir dans 6 mois et qui ont même pas envie de jouer. Il y a pas de cohérence. Il y a aucune cohérence. Et tu mets Laurent Blanc qui n'aime pas faire jouer les jeunes. Tu n'as pas de cohérence. Donc.
Et Laurent Blanc, c'est pas à lui faire injure, mais bien évidemment qu'on a tous dit, on continuera à le dire, que c'est pas le principal problème, que les coachs à Lyon, etc., tout le refrain. Mais Laurent Blanc, depuis qu'il est arrivé, ça fait quand même 15 matchs. On n'a pas quand même l'impression d'avoir eu un coach qui a essayé, enfin il a peut-être essayé, mais il a abandonné très rapidement. Parce que quand on voit même ses discours d'après-match ou son apport, pour l'instant, alors bien évidemment, je répète, parce qu'il faut toujours le dire, pour avoir une analyse construite et avoir la bonne analyse, oui, c'est pas le seul responsable, mais j'aurais quand même...
Aujourd'hui,
c'est pour ça qu'à tous les étages, en fait, Kevin, à tous les étages de la fusée, je terminerai là-dessus, lisez la casette dans son foot. Capitaine de l'Olympique Lyonnais, ce qu'il dit sur la stratégie de l'Olympique Lyonnais, Olas, Ponceau, Chérou, Laurent Blanc, les joueurs, on n'y comprend plus rien. Et en fait, on ne sait pas, même avec Textor, on ne sait même pas ce que ça va donner. Mmh. On est dans un flou total.
Je remercie
et
Nassim.
Pour l'instant, on l'avait dit pour le PSG, et je pense qu'on peut le dire maintenant pour Lyon, dans un autre contexte, mais cette équipe est pour l'instant inentraînable.
Je remercie Nassim de nous avoir appelé au 32-16. Merci beaucoup. Juste une précision, les gars, Tagliafico, notamment, c'est Chérou. Il y a eu quand même, on ne peut pas tout enlever. Bon, il y a quand même eu que.
Et même ça, on ne sait pas qui, là, par exemple, Jeffinho, on ne sait pas si c'est Textor, parce qu'il joue à Botafogo. On ne sait pas en fait finalement qui fait quoi, qui.
Bon, en tout cas, Tagliafico au moins, c'est Chérou.
On n'a pas fait
aussi. Merci Walid, merci Kevin, merci beaucoup à vous. Merci de nous avoir écoutés, nous avoir suivis en direct vidéo sur Twitch. Merci de nous avoir commenté.
C'est comment la Twitcherie ?
De nous avoir appelé au 32-16. L'after revient demain, 21h, bien sûr, avec la Ligue 1. Bonne soirée, bonne nuit, l'équipe. Ciao.